à la présentation du conférencier de ce soir, Dominique Givors, qui est, il est né en 1945, il est ingénieur de l'Institut national polytechnique de Grenoble, spécialisé en physique, il a fait un DEA de physique des solides à l'Université de Grenoble toujours, doctorat d'État en 1973. De 1986 à 2001, il a été directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directeur du laboratoire Louis Néel de 1992 à 2000 et du laboratoire national des champs magnétiques pulsés, je pense que c'est ça, à Toulouse de 2000 à 2002. Sa bibliographie n'est pas précisément une bibliographie de vulgarisation, mais je crois que ce soir, ce sera une conférence de vulgarisation, puisque je relève dans ses publications majeures des articles très spécialisés dans les revues Nature, Physical Review Letters, Science, Applied Physics Letters, etc., etc. Bien, je vais lui céder la parole pour une cinquantaine de minutes à une heure, et ensuite, selon nos bonnes habitudes, je reviendrai à cette tribune pour la séance des questions que vous voudrez bien adresser à Dominique Givors. Voilà, merci.
Merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle donc qui est liée au magnétisme. Et je vais essayer de vous montrer comment est-ce que les objets magnétiques transforment notre vie quotidienne. Pour moi qui suis, vous connaissez mon âge maintenant, donc pour moi qui suis plutôt vers la fin de ma carrière de scientifique, ce que j'ai beaucoup aimé dans le travail que j'ai fait, ça a été ce lien que j'ai réussi à toujours maintenir entre la compréhension des propriétés de la matière et leur application pour des phénomènes. Donc c'est quelque chose, chacun trouve sa voie qui lui est, disons, un peu personnelle, et c'est ça, je crois, qui pour moi a marqué ce que j'ai fait, du moins le plus compté. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, on pourrait dire ça commence plutôt en 1820. Mike Coe vous a parlé, Mike Coe a présenté, certains d'entre vous y ont peut-être assisté, une conférence sur l'histoire du magnétisme dans laquelle il a montré que les anciens connaissaient le magnétisme 2000 ans avant notre ère, mais le magnétisme moderne, on peut dire qu'il commence en 1820 avec l'expérience de Hochstedt. Donc je vais passer très rapidement là-dessus. Ensuite, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous expliquer, il y a trois ou quatre choses qu'il faut que vous compreniez pour avoir en gros compris tout l'essentiel du magnétisme de la matière. Donc il y aura un quart d'heure où il faut que vous fassiez, ou que vous soyez spécialement attentif. Donc je vous préviendrai. Et je pense que c'est important parce que ça donne de l'intérêt. Après, ça vous donne la possibilité de comprendre ce qui suit et donc de voir les implications de ce qu'on a discuté. Et c'est ce que j'essaierai de faire dans les parties suivantes, de vous montrer un certain nombre. Bien sûr, j'ai dû faire des choix d'applications possibles du magnétisme. Donc sur la gauche de cette image, vous voyez deux boussoles. Le fil rouge, il représente un fil dans lequel peut passer un courant électrique. Sur l'image d'en haut, il n'y a pas de courant électrique, et sur l'image d'en bas, il y a un courant électrique. Et vous remarquerez que sur l'image d'en haut, la boussole est orientée suivant le nord, et que sur l'image d'en bas, elle est perpendiculaire. Pourquoi est-ce qu'elle a été, son orientation a été modifiée? C'est parce que le courant électrique qui passe dans le fil crée un champ magnétique. Donc c'est cette expérience qui a été faite par Hochstedt en 1820 et qui a fait réaliser, c'est la source du fait que le magnétisme et l'électricité sont une science unique, l'électromagnétisme. Donc, dans la réalité, Hochstedt n'a pas poussé beaucoup au-delà de la compréhension de l'expérience qu'il avait faite, mais les personnes, là, on pourrait dire la personne qui à ce niveau-là a le plus contribué, c'est Ampère, que vous connaissez tous de nom, bien sûr. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail sur l'histoire du magnétisme, mais je voudrais vous rappeler donc qu'est-ce qui ressort de cette expérience d'Hochstedt. C'est ce que vous voyez maintenant sur la gauche de la figure. J'ai représenté une spire de courant. Donc quand il passe une spire dans ce courant, elle est source d'un champ magnétique. Le courant qui circule, des électrons qui bougent, c'est du magnétisme. Donc c'est ça le premier message à retenir. Et donc on est amené à définir ce qu'on appelle le moment magnétique de la spire, qui est le produit du courant par sa surface. Et cette spire, qui a un moment magnétique M que je viens de définir, I multiplié par S, elle crée un champ d'induction magnétique, on pourrait dire un champ magnétique B, qui sur cette figure est vertical. Donc ça, c'est ce que vous pouvez obtenir chez vous si vous prenez un bout de fil de cuivre, vous prenez une pile électrique et vous créerez déjà un champ magnétique perpendiculaire à la spire que vous aurez créée. Et donc la question qui se posait après ça, c'est quel est le magnétisme de la matière ? D'où vient le magnétisme de la matière ? Du temps de Ampère, bien sûr, les électrons, le concept d'électron n'existait pas. Du moins, il n'était pas admis. Puisque... Donc, ce n'est que plus tard qu'on a réalisé que dans le modèle de l'atome qui est entouré des électrons, de noyaux qui sont entourés des électrons, la rotation des électrons autour du noyau crée un champ magnétique qui est exactement équivalent du champ magnétique qui a été créé par la spire. Et donc, ce moment magnétique, on va l'appeler le moment magnétique orbital, parce qu'il est créé par les électrons sur leur orbite. Et donc, il a exactement la même expression que celle que l'expression que j'avais écrite à gauche. Le moment orbital, c'est le courant des électrons multiplié par la surface des électrons. Et donc, bien sûr, la chose qui est étonnante, c'est que les électrons dans la matière, ils tournent sans freiner. Il y a une sorte de supraconductivité interne à la matière. Les électrons tournent sans freiner. Dans un fil de cuivre, ils rencontrent des obstacles et ça chauffe. Sur les orbitales moléculaires, il n'y a pas de problème, les électrons tournent sans freiner. Et donc le moment magnétique, il est là en permanence. Il y a une autre composante qui est extrêmement importante au magnétisme de la matière, elle vient du spin. Donc le problème, c'est que le spin, c'est une quantité qui vient de la mécanique quantique. Il n'y a pas d'analogie simple pour l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer simplement. Souvent, on dit qu'il est dû à la rotation des électrons sur eux-mêmes, mais quand on essaye de mettre des chiffres là-dessus, on s'aperçoit que l'image physique ne fonctionne pas très bien. Mais en tout cas, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les électrons qui tournent, ils créent donc un champ magnétique sur leur orbite, c'est ce qu'on appelle le moment magnétique orbital, mais en même temps, ils portent avec eux un moment magnétique qu'on appelle le moment magnétique de spin. Et finalement, le moment magnétique des atomes, il résulte de la somme des contributions des moments magnétiques de spin et du moment magnétique orbital. Alors, maintenant, on est arrivé, on voit la matière, les atomes peuvent porter un moment magnétique. Mais comment est-ce que ces choses-là vont se combiner pour déterminer les propriétés magnétiques de la matière ? Donc ça, c'est la question à laquelle on va maintenant répondre. Donc, il y a trois... On va définir quatre choses, en fait. Hein. Mais il y en a les trois premières qui sont sur cette figure sont les plus importantes. La première chose, c'est que les moments des électrons vont se combiner ensemble pour donner lieu au moment magnétique atomique. Et vous allez voir que peu d'éléments sont magnétiques dans la matière. La deuxième chose, qui est très importante, c'est que les moments magnétiques atomiques, ils vont interagir entre eux. Et c'est ça qui va donner l'ordre magnétique. Pourquoi est-ce que on voit des propriétés spéciales aux matériaux magnétiques? C'est pas parce qu'ils ont un moment magnétique, bien sûr, c'est déjà parce qu'ils ont ça. Mais en plus du fait qu'ils ont un moment magnétique, il faut absolument que tous ces moments magnétiques soient parallèles entre eux. Et c'est ça qui est le phénomène fondamental, qui est le couplage entre les moments magnétiques, qui est dû à ce qu'on appelle le champ moléculaire. Et puis la propriété suivante qu'on va expliquer, c'est l'anisotropie magnétique. Tous ces moments magnétiques qui sont parallèles entre eux, ils sont dirigés selon une direction privilégiée. Et ce phénomène, puisqu'il y a une direction privilégiée, ce n'est pas pareil dans toutes les directions, ce n'est pas isotrope, on dit que c'est anisotrope. Alors, là, je vais essayer de vous expliquer, de vous donner une image, je pense qui est assez jolie, qui permet de comprendre comment se construit le moment magnétique autour des atomes. Donc, imaginez, vous avez un atome, vous avez deux orbitales, vous savez que dans les atomes, les électrons, ils sont distribués sur des orbitales, et donc vous avez deux orbitales, et ce qui va se passer, c'est qu'il faut savoir que, donc, la première chose, ces électrons, ils ont des charges négatives et ils se repoussent. Donc si vous avez deux électrons, supposez que vous ayez deux électrons à mettre autour d'un atome, et que vous ayez deux orbitales, eh bien les deux électrons, ils préfèrent se mettre sur deux orbitales différentes, parce que comme ça, ils vont moins souvent se rencontrer. En n'étant pas sur la même route, on a moins de chances de se rencontrer. Donc les électrons, ils sont plus contents quand ils sont sur deux orbitales différentes. Donc ça, ce truc-là, vous le savez déjà par la mécanique classique. Ça, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je viens de vous montrer. Donc sur cette figure qui est là, c'est la situation de gauche qui est favorisée. Et maintenant, ces deux électrons, supposés que l'électron, sur la première orbitale, la plus interne, il a son spin vers en haut. Alors ce qu'il faut que je vous explique, c'est que le spin ne peut être que soit vers en haut, soit vers en bas. Il n'a que deux positions possibles. Donc, le premier électron, il a son spin vers en haut. Il est sur l'orbitale la plus interne. Et vous posez la question, est-ce que le deuxième électron, il préfère que son spin soit parallèle ou qu'il soit antiparallèle? Alors là, ce qu'il faut faire jouer, c'est un principe qui vient de la mécanique quantique, qui est le principe de Pauli, et qui nous dit que deux électrons ne peuvent pas être simultanément dans le même état quantique. Donc, les deux électrons, si jamais ils se mettent avec le spin parallèle, il est strictement impossible que l'électron qui est sur l'orbite externe saute sur l'orbite interne, parce que par le principe Pauli, il ne peut pas venir l'occuper, cette orbite. Tandis que si jamais les deux orbitales, les deux spins sont antiparallèles, il a une possibilité de quitter son orbital pour passer sur celle qui est intérieure. Conclusion, c'est la situation de gauche qui est plus favorisée. Et vous venez de comprendre pourquoi est-ce que quand on remplit les électrons sur les couches atomiques, eh bien, on crée un moment magnétique. Mais sur l'orbital intérieur, vous pouvez mettre autant d'électrons vers en haut que vers en bas. Donc, si vous remplissez complètement la couche, vous n'aurez plus de magnétisme. Donc, vous voyez apparaître ici le fait que le magnétisme est une propriété des couches électroniques incomplètes. Alors, en fin de compte, dans la matière, quand on forme des solides, on a une très forte tendance à compléter les couches électroniques. Et puis, il y a d'autres mécanismes qui sont plus compliqués, qui sont liés au caractère itinérant des électrons. Et en fin de compte, il y a très peu de matériaux, d'éléments qui sont magnétiques. Et ceux qui sont magnétiques, je les ai entourés ici en rouge. Donc, il y en a 5 qui sont des éléments que vous connaissez tous. Le chrome, le manganèse, le fer, le cobalt et le nickel. Et de ces 5 éléments, les 3 principaux, c'est le fer, le cobalt et le nickel, parce que ce sont les seuls éléments de la nature qui sont magnétiques à température ambiante. Et puis vous avez toute une série qu'on appelle les terres rares, qui n'est pas si rare que ça d'ailleurs, c'est quelque chose comme le 5e élément de la nature tous ensemble, mais on les appelle les terres rares parce qu'ils sont très durs à isoler vu qu'ils ont des propriétés chimiques extrêmement similaires. Donc les terres rares, c'est une autre série d'éléments qui sont magnétiques. Et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le magnétisme, c'était en gros exclusivement l'étude des propriétés du fer, du cobalt et du nickel, presque exclusivement. Le magnétisme des terres rares, c'est venu après la Seconde Guerre mondiale, quand on a su isoler les éléments de terres rares et étudier à ce moment-là leurs propriétés, et leurs propriétés en association avec le fer, le cobalt ou le nickel. Alors, donc maintenant, on a compris qu'on avait des éléments qui avaient un moment magnétique, et ces moments magnétiques ensemble, on regarde un corps qui est magnétique, et bien on va observer qu'à basse température, les moments magnétiques vont s'aligner entre eux. Et quand on va monter en température, sous l'effet de l'agitation thermique, le désordre va se créer et il y aura une frontière entre le moment où les moments magnétiques sont ordonnés à basse température et le moment à haute température où ils sont désordonnés. La frontière, on l'appelle la température de Curie. Alors, dans le fer, dans le cobalt, la température de Curie, elle est de l'ordre de 1000 Kelvin. C'est pour ça que ces éléments sont très importants. C'est le seul cas où la température de Curie est nettement au-dessus de la température ambiante. Et en réalité, alors qu'il y a une extraordinaire variété de matériaux magnétiques avec des propriétés différentes, très différentes, eh bien pratiquement tous ces matériaux, ils sont à base, dans les applications, tous ces matériaux, ils sont à base de fer, cobalt et de nickel, essentiellement même fer et cobalt. Alors, d'où vient le champ moléculaire qui est à l'origine du ferromagnétisme ? Donc, la personne qui a développé le modèle du champ moléculaire, c'est Pierre Weiss, qui était professeur à Strasbourg, et en 1906 ou 7. Et dès qu'il avait développé ce concept, qui est extrêmement fameux, il avait réalisé que les interactions qui existent entre les moments magnétiques ne sont pas les mêmes interactions que celles qui existent entre des aimants. Quand vous jouez entre deux aimants et vous avez l'impression qu'ils s'attirent très très fortement, eh bien, si vous calculez ça au niveau d'un atome, vous vous apercevez que c'est une interaction qui est extrêmement faible. C'est une interaction qui est de l'ordre de 1 Kelvin par atome. Autrement dit, c'est une interaction qui pourrait donc créer l'ordre magnétique à environ 1 Kelvin. Et donc, Weiss, dans son papier, où il décrit le modèle du champ moléculaire, où il explique qu'il règne dans la matière un champ magnétique qui est à l'origine du ferromagnétisme, il dit, mais quel est ce champ ? On ne connaît pas ce champ, mais les preuves expérimentales de son existence sont tellement fortes qu'on peut assurer qu'un jour on découvrira son origine. Et il a fallu attendre 1929, Heisenberg, pour expliquer les interactions d'échange, et en fait les explications, donc on les appelle les interactions d'échange, les interactions qui sont à l'origine de l'ordre magnétique, c'est exactement les mêmes que celles que je vous ai expliquées tout à l'heure pour le moment magnétique. Donc c'est pas la peine que je refasse l'explication, c'est la même argumentation, il faut regarder les problèmes de occupation, répulsion entre électrons, occupation d'orbital électronique, et respecter le principe de Pauli. Donc, c'est à partir de ces arguments-là, alors bien sûr, quand on veut regarder dans le détail, souvent c'est très difficile d'arriver à la conclusion, hein, même, et il faut des calculs, aujourd'hui des calculs théoriques extrêmement sophistiqués, pour arriver à prévoir l'ordre magnétique. Mais la cause fondamentale, ça, on la comprend. Donc, on a compris maintenant le moment magnétique, et on a compris l'ordre magnétique. Alors, il nous reste à expliquer pourquoi est-ce que les moments magnétiques, ils ont une direction privilégiée, l'anisotropie magnétique. Je vous ai expliqué que le moment magnétique des atomes, c'est le moment magnétique orbital et le moment magnétique de spin, qui sont ensemble. Et j'ai bien insisté qu'on appelle le moment magnétique orbital parce qu'il est créé, il est lié au fait que c'est le résultat du mouvement des électrons sur leur orbite. Mais les orbites, elles ne sont pas forcément sphériques. Donc j'ai fait ici un petit dessin où j'imagine que les orbites, ce sont des sortes d'ellipses. Donc, quand les électrons ils se baladent sur leurs orbites qui ne sont pas sphériques, eh bien, selon l'orientation de l'orbite, ils vont plus s'approcher, les électrons, ils vont plus s'approcher des atomes de l'environnement. Et ces atomes, ils ont des charges ioniques. Supposons ici que ce soit des charges positives. Eh bien, les électrons, s'ils sont orientés sur mon image de gauche, vous le voyez que les électrons, ils s'approchent moins des charges positives que sur l'image de droite, où ils s'approchent plus des charges positives verticales. Conclusion sur cette figure, la direction privilégiée de l'orbite, c'est la direction sur la droite de mon image. Parce que comme ça, les électrons sont plus proches des atomes des charges ioniques environnantes. Et puisque le moment magnétique il est perpendiculaire à l'orbite, vous voyez que sur cette image, le moment magnétique orbital est horizontal. On vient de découvrir qu'il y avait une direction privilégiée. On vient de démontrer pourquoi il y avait une direction privilégiée. Alors, dans le cas des éléments de terre rares, c'est ça qui est leur spécificité. C'est ça qui fait qu'ils sont intéressants, en plus des métaux comme le fer, le cobalt et le nickel, c'est que l'anisotropie magnétique est très importante. Alors, on arrive à la quatrième chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Enfin, si j'en ai parlé, mais sans dire son nom, ce sont les interactions dipolaires. Ça, ce sont les interactions que vous connaissez lorsque vous jouez avec des aimants. D'ailleurs, entre parenthèses, vous voyez cette chose très intéressante, que c'est souvent l'interaction qui est la plus faible qui se manifeste. Parce que les interactions les plus fortes, il faut toujours qu'elles soient satisfaites, et donc vous ne pouvez pas arriver à lutter contre elles. Et du coup, vous ne les voyez pas. Tandis que l'interaction dipolaire, vous la connaissez, c'est celle qui existe entre les aimants. Alors, vous savez bien, ou peut-être certains d'entre vous l'ont oublié, mais si vous prenez deux aimants et que vous les mettez l'un à côté de l'autre, enfin, donc les deux aimants, on va supposer qu'ils ont leur pôle nord parallèle, vous les mettez l'un à côté de l'autre, ils ont envie de se mettre antiparallèles. Donc, ça, c'est un phénomène qui est bien connu. Et donc, on peut représenter les interactions dipolaires par un champ magnétique qui a envie de les désaimanter. Ils ont envie de, au lieu d'être parallèles, ils ont envie d'être antiparallèles. Donc, on appelle les interactions dipolaires, pour nous, très très souvent, on les discute dans le concept du champ démagnétisant, champ qui veut désaimanter la matière. Donc, ce qui se passe, effectivement, c'est que si vous prenez un bloc de fer... Alors, donc là, en haut, j'ai imaginé que vous aviez deux aimants l'un à côté de l'autre. Et maintenant, vous prenez un bloc de fer, c'est ce que j'ai appelé le bloc unique. Et bien, dans la réalité, il va se décomposer en deux régions. Et entre les deux régions, il va y avoir une zone de frontière. Et puis, si vous avez un bloc plus grand, bon, voilà, donc d'abord, j'explique pourquoi il y aura une zone de frontière. Mais parce que, pourquoi est-ce que ces interactions, elles arrivent à se manifester? Pourquoi est-ce que la division en domaines, elle arrive à se manifester? Eh bien, la raison... c'est que les interactions dipolaires sont des interactions à longue distance, alors que les interactions très fortes qu'on a discutées tout à l'heure, ce sont des interactions à courte distance. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à continuer à satisfaire les interactions à courte distance, et puis quand même, à longue distance, tenir compte des interactions dipolaires. Et bien, la façon de faire, c'est de créer une zone frontière dans laquelle la rotation d'aimantation va être relativement progressive, de façon à ce qu'entre deux moments magnétiques proches voisins, le parallélisme soit pratiquement conservé. Donc dans cette zone-là de frontière, Il faut qu'on paye un petit peu d'énergie d'échange, les moments ne sont pas parallèles. Il faut qu'on paye un petit peu d'énergie d'anisotropie, les moments ne sont pas selon leur direction facile. Mais comme on ne paye pas trop et qu'en plus ça se passe que dans des zones extrêmement réduites, et bien c'est un terme d'énergie très faible et finalement c'est acceptable. Et c'est ce qui se passe et c'est à cause de ce mécanisme que quand vous avez un morceau de fer, vous ne savez pas qu'il est magnétique. Voilà, bon, là j'avais donné l'exemple que s'il y avait deux blocs, ce n'est pas très intéressant. Donc ici, l'observation expérimentale qui a des domaines magnétiques, les propriétés magnéto-optiques, les propriétés optiques, quand vous regardez la lumière polarisée pour les deux directions d'aimantation, elles sont différentes. Et donc vous pouvez très facilement, en fait, si vous utilisez un microscope avec de la lumière polarisée, vous pouvez très facilement voir les domaines magnétiques. Parce que les domaines magnétiques, ils peuvent facilement avoir des tailles qui sont supérieures aux microns, donc ils sont d'observation relativement aisée. Alors, si vous avez des domaines magnétiques, vous avez des parois, vous avez des domaines, mais finalement, les parois, je vous ai dit, c'est un tout petit terme d'énergie. Donc, vous prenez un morceau de fer, vous créez un petit champ magnétique avec une bobine, et vous allez arriver à le saturer, et à ce moment-là, eh bien, il aura la propriété, comme un aimant permanent, enfin, vous aurez le maximum d'aimantation. Donc, c'est ce que j'ai dessiné ici. Vous augmentez le champ, vous avez une augmentation linéaire, et puis après, le système, on dit qu'il est saturé, l'aimantation est constante. OK, donc là, on en a fini avec la partie concept. Donc, on connaît le moment magnétique, on sait pourquoi est-ce que le moment s'ordonne, on sait pourquoi ils ont une direction privilégiée, et on sait pourquoi ils se divisent en domaines. Et maintenant, il faut qu'on joue avec ça pour faire des matériaux, pour faire des choses qui vont être utiles. Alors, maintenant, je vais vous définir le concept de coercitivité. Ça, c'est un concept qui est fondamental pour les applications. Donc ça, bien sûr, jusqu'à présent, je n'en ai pas du tout parlé. Supposer un matériau qui soit saturé. On a pris un morceau de fer, on l'a saturé, ou on prend un matériau, enfin n'importe quel matériau, on l'a saturé. Et maintenant, supposez que vous vouliez retourner son aimantation. Vous voulez passer, donc on part de la situation de gauche, l'aimantation est vers en haut, on applique un champ magnétique vers en bas, et donc l'aimantation, elle voudrait se retourner, elle voudrait être comme sur la figure à droite ici, elle voudrait être dans la direction du champ magnétique. Mais pour passer de l'un à l'autre, il faut que les moments magnétiques ils tournent. Et quand ils vont tourner, tous les moments magnétiques ils vont se retrouver perpendiculaires à la direction de facile aimantation. Et je vous ai expliqué qu'il y avait une direction facile. Quand les moments sont perpendiculaires, eh ben, là, il y a beaucoup d'énergie parce qu'il faut que tous les moments magnétiques payent cette énergie. Et donc ça, c'est la coercitivité. À cause de cette énergie qui a payé, quand on est perpendiculaire, il y a une bosse, il y a un maximum d'énergie qui se crée et qui empêche le retournement d'aimantation. Et donc, selon la valeur de l'anisotropie magnétique, ce maximum d'énergie, il est plus ou moins important. Dans les matériaux doux, le champ coercitif, il arrive à être 10 puissance 7 fois plus petit que dans les matériaux durs. Et donc maintenant, voilà, je montrais l'exemple. Donc ce qu'on va appeler les matériaux doux, ce sont les matériaux dans lesquels le champ coercitif est très faible. Et les matériaux durs, ce sont ceux dans lesquels le champ coercitif est important, qui peuvent rester saturés. Alors, je vais commencer par discuter des matériaux durs. Donc, imaginez que j'ai un rotor qui soit un aimant permanent, qui est ici au centre d'un système qui est avec des matériaux doux que j'appelle un stator. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer, en aimantant successivement le stator dans des directions différentes, je vais créer une direction de champ magnétique sur le stator qui va tourner de façon régulière. Et donc l'aimant permanent, le rotor aimant permanent, il va suivre le champ magnétique que j'ai ainsi créé, et j'ai donc créé un moteur. Donc là, je viens de vous montrer le principe du moteur. Alors, est-ce qu'on est bien clair? Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Avec le stator, je vais faire un électro-aimant, je vais aimanter le fer, ici, par exemple sur la gauche, je vais l'aimanter verticalement, donc le rotor, avec l'aimantation qui est horizontale, il va tourner pour s'aligner verticalement, mais au moment où il arrive vertical, j'ai déjà tourné maintenant l'aimantation du fer et je me suis mis à aimanter le fer horizontalement. J'ai mis du courant électrique dans les bobinages pour aimanter le fer horizontalement. Et donc, vous voyez, par ce principe, on arrive à créer un moteur. Alors, en réalité, j'ai supposé ici qu'au centre, on avait un aimant permanent. Mais on pourrait très bien avoir un morceau de fer avec un bobinage qui aimanterait le morceau de fer. Pourquoi est-ce qu'un aimant permanent, c'est mieux? Eh bien, la raison, c'est que le bobinage, il prend du volume, et en fin de compte, on a un système plus compact et plus efficace du point de vue énergétique avec un aimant permanent, quand cet aimant permanent est de haute performance. Et c'est pour ça que depuis 20 ans, depuis la découverte des aimants néodyme fer-bore, petit à petit, les moteurs de très haute performance sont en train d'être des moteurs à aimant permanent. Donc ici, vous voyez quelques exemples. Je devrais commencer par la droite parce que le premier exemple d'application des aimants néodyme fer-bore, ce sont les petits moteurs qui servent à faire déplacer la tête de lecture des disques durs d'ordinateur. Donc ça, je suis persuadé que Claude Chappert vous en parlera dans sa conférence sur l'enregistrement magnétique. Mais donc, c'est une application, bien sûr, qui est par des millions d'unités. Tous les disques durs d'ordinateur, ils ont un petit moteur comme ça. Mais maintenant, vous avez aussi des moteurs de taille beaucoup plus importante qui sont à base d'aimants. La Toyota Prius, elle utilise un moteur de ce type-là donc pour la partie moteur électrique. Donc, qu'est-ce que c'est que la Toyota Prius ? C'est une voiture hybride qui associe un moteur à essence et un moteur électrique. Et le moteur électrique, il n'est pas utilisé pour stocker de l'énergie pour être capable de faire 50 ou 100 km, mais il est utilisé à tout moment pour récupérer l'énergie de freinage en ville ou l'énergie dans les descentes. Et grâce à ça, la consommation d'énergie est réduite d'environ 30%. Donc en permanence, le moteur électrique à base d'aimant néodyme fer-bore récupère l'énergie, puis fournit l'énergie. Il aide au fonctionnement du moteur thermique. Et vous savez sans doute que la prochaine génération de trains TGV, ça s'appellera l'AGV, l'automotrice à grande vitesse, qui devrait fonctionner, je crois, en 2012. Et bien, pour la première fois, donc ces trains utiliseront aussi des moteurs à aimant permanent. Donc, ça vous montre l'importance que sont en train de prendre ces aimants dans les applications pour la traction. Alors, pour le développement de ces matériaux, je vous parle des aimants néodyme fer-bore comme si c'était une chose acquise. Mais il y a une recherche encore très importante pour améliorer leurs propriétés. Alors, il y a différentes voies de recherche qui existent, mais je voudrais vous en mentionner une qui est assez originale, qui consiste à mélanger des morceaux de fer et des morceaux de néodyme fer-bore à l'échelle nanométrique ensemble. Donc on appelle ça des nanocomposites. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe ? La taille des morceaux de fer qu'on met dans ce matériau, elle est plus petite que la taille des parois que je vous ai définies tout à l'heure. Vous savez, les parois, c'est les zones où l'aimantation se renverse pour créer les domaines. Eh bien, si vous arrivez à faire un morceau de fer qui est plus petit que la zone de rotation, du coup, le fer, il veut plus se retourner. Il devient un aimant permanent. Autrement dit, une très petite particule de fer coincée entre deux morceaux d'aimant permanent, eh bien, elle se comporte comme un matériau magnétique dur. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça ? C'est parce que le fer, c'est le matériau le plus magnétique. Donc, c'est celui qui a la plus grande aimantation, on dit. C'est celui qui va créer le plus grand champ magnétique dans son environnement. Donc, si vous pouvez remplacer 50% de néodyme fer-bore par du fer, vous allez faire un gain très important dans les propriétés. Donc, c'est le concept des matériaux nanocomposites sur lesquels beaucoup de personnes travaillent aujourd'hui. Mais bon, je dois reconnaître que pour l'instant, on n'a pas encore obtenu des résultats qui surpassent les meilleurs aimants de type néodyme fer-bore. Alors, une autre chose intéressante, c'est que, bien sûr, de nos jours, je vous ai parlé tout à l'heure des disques durs d'ordinateur, il y a énormément d'applications qui demandent des petits systèmes. Et donc, ici, je vous montre un petit turbogénérateur. Donc, c'est un système qui a été développé. C'est pour créer l'énergie, par exemple, dans un téléphone portable, enfin, dans un petit système. Donc, l'idée, c'est une petite turbine que vous faites fonctionner avec un peu d'essence. Et la turbine, elle tourne à toute vitesse et elle va vous générer de l'électricité. Et donc, vous voyez ici, alors je vais essayer de vous faire fonctionner le film. Donc, vous voyez ici, voilà, donc c'est un petit rotor à aimant permanent qui tourne à quelque chose comme 100 000 tours minute, hein, c'est extraordinaire, et qui crée donc qui crée donc de l'électricité sur les contacts que vous voyez ici. C'est un générateur électrique, hein, c'est la réciproque d'un moteur électrique que je vous avais défini tout à l'heure. Alors, ce système-là, c'est un système qui est millimétrique, c'est pas un système micronique. Et vous voyez ici que il y a des secteurs, l'aimant permanent, il est décomposé en des tas de régions d'aimantation, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Alors, une des difficultés, c'est que lorsqu'on réduit de plus en plus la taille, comment arriver à faire des aimants permanents de très petite taille et à réaliser le retournement d'aimantation, plus, moins, plus, moins, qu'on veut pour obtenir des microsystèmes. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est une voie de recherche qu'on développe actuellement, qui consiste à éclairer un matériau... Donc, on prend une plaque d'aimant permanent, on la sature dans une direction unique, et puis on l'éclaire à travers un masque qui a une dimension micronique, de façon... On l'éclaire par un laser, de façon à chauffer localement. Lorsqu'on la chauffe localement, on a tendance à faire perdre le magnétisme. Et à ce moment-là, les zones chauffées sont très sensibles à un petit champ magnétique, et en appliquant un champ magnétique dans la direction opposée à la direction initiale, on force le retournement d'aimantation. Vous voyez ici, sur la partie gauche, vous voyez ici, le mieux c'est la figure est moins jolie, mais elle est plus caractéristique. Vous voyez ici, on a retourné, on a un damier noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc. Ce sont des zones d'aimantation opposées qu'on a réalisées ici avec un pas d'environ 50 microns. Alors, ici, je voudrais vous montrer une autre application originale de poudre magnétique. Je vous ai parlé tout à l'heure des voitures électriques. Et un des problèmes avec le développement de la voiture électrique, c'est que la puissance électrique embarquée dans les automobiles est de plus en plus importante. Et si on continue à garder 12 volts pour l'alimentation électrique, eh bien, le poids de cuivre dans les voitures va monter il va falloir monter la taille des conducteurs, et donc le poids de cuivre va augmenter de façon dramatique. Hein. Déjà aujourd'hui, entre parenthèses, c'est de l'ordre de 60 kg de cuivre qu'il y a dans votre voiture. Je ne sais pas si vous avez réalisé, c'est absolument stupéfiant. Donc, on sait que, très probablement, l'alimentation électrique dans les voitures va passer à 42 volts. Mais 42 volts continu, si on ouvre un contact électrique sous 42 volts, il y a un arc qui se crée, et cet arc, qu'est-ce qu'il a comme résultat ? Eh bien, il va abîmer le contact et vous ne pourrez pas refermer votre contact après. Donc il faut absolument arriver à développer des systèmes de coupure d'arc beaucoup plus efficaces que ce qui existe aujourd'hui. Et donc, une idée qu'on peut développer, c'est que vous voyez ici, donc ça c'est, j'ai schématisé ici un arc électrique à l'ouverture de contact. Et donc l'idée, c'est d'utiliser le soufflage magnétique. Donc si vous mettez si vous rendez votre contact magnétique, et qu'il est capable de créer un champ magnétique perpendiculaire à l'image ici, eh bien vous savez que quand vous avez un courant et un champ magnétique, il existe entre eux une force qui s'appelle la force de Laplace, qui est perpendiculaire à la fois au courant et au champ. Donc c'est ce qu'on voit ici. En noir, vous avez la force qui va exercer sur l'arc si on est capable de créer un champ magnétique B perpendiculaire à la figure. Et pour faire ça, eh bien il suffit de mettre dans le contact ici en blanc d'inclure un petit peu de matière magnétique, et cette matière magnétique, on l'aimante perpendiculaire à la figure. Et quand on fait ça, elle est source d'un champ qui est lui-même perpendiculaire à la figure. Donc là, sur l'image que je vais vous montrer, vous verrez, vous allez voir deux contacts qui s'ouvrent ensemble. Le contact d'en haut, il est magnétique, et le contact d'en bas, il n'est pas magnétique. Et vous verrez, on ne voit pas très bien les contacts, on voit surtout l'arc qui se crée. Et vous allez voir que la coupure de l'arc est beaucoup plus rapide pour la partie en haut, pour la partie supérieure que pour la partie inférieure. Voilà, donc regardez. Donc là, vous voyez la partie en haut, tac, c'est fini. Alors, et maintenant l'arc continue en bas. Hein. Donc, vous avez remarqué, l'arc, vous le voyez beaucoup plus fortement, parce que comme il est soufflé à l'extérieur des contacts, eh bien sûr, la caméra le voyait en entier, tandis que les contacts ici, qui sont foncés, on ne les voit pas très bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, une autre application des matériaux magnétiques durs, c'est, dans le cas des cancers, une des idées fondamentales qui existe aujourd'hui, c'est que les marqueurs des cancers, ce sont des protéines extrêmement minoritaires, si on voulait détecter les cancers au premier stade, et que les méthodes d'analyse actuelles ne sont pas capables de détecter les protéines qui caractérisaient l'arrivée de ce cancer. Donc l'idée, c'est de ce qu'on appelle fonctionnaliser des particules magnétiques. Sur des particules magnétiques, on va mettre des objets biologiques qui vont être capables de reconnaître les protéines en question. Et une fois qu'on les retire du corps humain, grâce à un aimant permanent, en quelque sorte, on concentre toutes les particules magnétiques ensemble et on est capable comme ça de détecter beaucoup plus facilement par concentration du système l'existence ou non de ces protéines. Donc ça, il y a plusieurs groupes qui travaillent sur ce genre d'idées et dont on pense qu'elles sont extrêmement prometteuses pour essayer d'arriver à des diagnostics beaucoup plus tôt des cancers. Alors, les matériaux, maintenant j'en arrive aux matériaux magnétiques doux. Donc les matériaux magnétiques doux, leur application essentielle, c'est de guider le flux. C'est de guider un flux magnétique, c'est-à-dire c'est de concentrer le magnétisme. Si vous avez un aimant permanent, il va créer un champ magnétique dans tout son environnement. Grâce à un matériau magnétique doux, le flux magnétique, le champ magnétique créé, il est localisé dans une région plus restreinte de l'espace. Alors, c'est le truc très connu des électroaimants. Je vous ai montré tout à l'heure que les électroaimants dans les moteurs électriques, par exemple, ça peut être utilisé, mais de plus en plus maintenant, on utilise des aimants permanents. Et puis, bien sûr, c'est utilisé dans les transformateurs. Donc, en plus, là, à ce moment-là, en plus de guide du flux, on utilise la loi de Lenz, le fait qu'une variation de flux crée un champ électrique. Donc là, ce sont les utilisations classiques des transformateurs. Alors, dans ces matériaux-là, on veut aussi améliorer les propriétés magnétiques. Et pour ceci, de nouveau, c'est ça qui est amusant, vous avez vu tout à l'heure que les matériaux magnétiques durs, on peut obtenir des propriétés améliorées en créant des matériaux nanocomposites, et bien dans les matériaux magnétiques doux, on peut également améliorer les propriétés en ayant des matériaux nanostructurés. Alors l'idée, elle est schématisée sur cette figure. Vous avez des petits grains dont les directions d'aimantation sont aléatoires. De nouveau, la taille des petits grains est inférieure à la taille des parois entre domaines, cette taille caractéristique pour le renversement d'aimantation. Quand tous les grains sont collés ensemble, les parois, elles n'ont pas la place de se développer. Donc les moments magnétiques, ils ont tendance à se mettre parallèles dans tout le matériau. Et puisque les moments magnétiques se mettent parallèles, imaginez ici les flèches rouges, quelle que soit leur orientation, puisque les flèches bleues sont aléatoires, le système, il a la même énergie. Donc le fait d'avoir des moments magnétiques tous orientés sur une matrice d'orientation aléatoire, ça tue l'anisotropie magnétique. Et c'est pour ça que les matériaux amorphes ou les matériaux nanostructurés, ils ont une très faible anisotropie magnétique et donc ce sont des matériaux magnétiques doux excellents. Alors, ici, une application des matériaux magnétiques doux. Donc, les matériaux magnétiques doux, les meilleurs matériaux magnétiques doux, donc ils vont être capables de détecter une très petite variation de flux. Ils vont réagir immédiatement à un petit champ magnétique puisqu'ils ont une très faible anisotropie, donc un très faible champ coercitif. Donc là, je n'ai pas le temps de vous expliquer le principe de ce capteur, mais je voudrais vous montrer un truc très amusant, une utilisation très amusante dans ces capteurs qui s'appellent des capteurs FluxGate. Partout où il y a une activité humaine, quand les hommes y construisent des bâtiments, ils utilisent des matériaux qui vont contenir de la magnétite, ils modifient la signature magnétique de l'environnement. Donc si vous baladez un détecteur magnétique très sensible à la surface d'une zone déserte, s'il y a des bâtiments enterrés dessous, eh bien ils vont se révéler par leur signature magnétique. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc, en archéologie, les appareils de type FluxGate sont utilisés pour détecter des bâtiments enfouis dont on ignore l'existence. Alors, j'en arrive maintenant à une application extrêmement prometteuse, mais qui n'est pas encore utilisé du magnétisme qui s'appelle l'effet magnétocalorique. Alors, d'abord, je voudrais faire une toute petite introduction qui est de réfléchir, si vous avez un corps chaud et un corps froid, vous savez tous, ça vous paraît une évidence parce que vous en faites l'expérience quotidienne, que quand vous mettez en contact un corps chaud et un corps froid, eh bien, la chaleur va passer du corps chaud au corps froid et le corps chaud va se refroidir et le corps froid va s'échauffer. Et la question qu'on peut se poser, mais est-ce qu'on pourrait arriver à chauffer encore plus un corps chaud en utilisant un corps froid et refroidir encore plus un corps froid en utilisant un corps chaud? Eh bien, ça, c'est ce que fait votre réfrigérateur. Et c'est ce que font les pompes à chaleur. Alors, donc, je voudrais très rapidement vous rappeler quelles sont les machines qui font ce type de choses, qui sont capables de refroidir en prenant la chaleur à une source qui est encore plus chaude, qui est plus chaude. Et donc, c'est ce qui est représenté ici sur ce fameux... Donc là, je ne sais pas du magnétisme, hein, j'imagine que j'ai un gaz, j'ai un diagramme pression-volume, et je pars ici du point origine où il y a la flèche. Et donc, vous voyez ici, le premier élément du diagramme, je vais appliquer une pression sur mon gaz, c'est la phase numéro 1. Quand j'applique une pression, j'augmente l'énergie interne du gaz, il va chauffer. Vous savez bien que si on dit toujours la détente, quand on détend un gaz, on sait qu'il se refroidit. Quand on comprime un gaz, on sait qu'il va chauffer. Donc ici, dans la phase numéro 1, on appuie sur le gaz et en plus, il est isolé de l'environnement. Il chauffe tout seul. Et puis après, dans la deuxième phase, donc ça c'est la phase numéro 1, dans la deuxième phase, on continue à appuyer, mais maintenant, on le met en contact avec l'extérieur de telle façon que sa température reste constante. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque fois on appuie, il chauffe un tout petit peu et il transmet sa chaleur à la source chaude. Donc, comme ça, on a cette variation selon deux, où la température reste constante, mais on continue à augmenter la pression et on continue à baisser le volume. Quand on arrive au sommet en deux, maintenant, on va faire le contraire. On va se mettre à baisser la pression, on va faire une détente adiabatique. Donc, exactement par le mécanisme inverse, dans la détente, il va se refroidir. Là, il est isolé, il se refroidit tout seul. Et après, on va continuer le refroidissement sur la ligne numéro 4 en contact avec la source froide. Et donc, pour que la température reste la même dans cette quatrième partie, eh bien, il faut que, pendant que la détente continue, il faut qu'au fur et à mesure, il y ait un échange de chaleur. Donc, il va refroidir le gaz qui arrive ici, qui est plus froid. Il va piquer de la chaleur à la source froide. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc là, on vient de voir le fonctionnement d'un frigo ou d'une pompe à chaleur, entre parenthèses, parce que qu'est-ce qu'on a fait ici ? Je vous ai bien expliqué. Ici, j'ai refroidi la source froide et j'ai chauffé la source chaude. Donc, j'ai exactement fait à la fois une machine frigo et une pompe à chaleur. Bon, eh bien, on peut utiliser un effet extrêmement analogue en magnétisme pour arriver à créer un réfrigérateur. Donc l'idée, elle est représentée sur la figure droite de cette image. Vous partez de ce point-ci, où il y a ma flèche, et vous allez appliquer un champ magnétique. Donc quand vous appliquez... Alors oui, ce que j'aurais dû expliquer, parce que ça rend les choses plus faciles, ce que j'aurais dû expliquer ici, c'est que la chaleur échangée sur les figures ici, Q1, et la chaleur échangée Q2, donc Q1 c'est la chaleur échangée dans la partie haute température, et Q2, c'est la chaleur échangée dans la partie basse température, dans la partie source froide, eh bien, on peut démontrer que Q1 sur T1, c'est égal à Q2 sur T2, et c'est égal à la variation d'entropie du système. Donc l'entropie, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est très intimement relié à la température, c'est la mesure de l'état de désordre du système. Donc plus un système est désordonné, plus son entropie est importante. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise ce concept ? Parce que ça permet d'expliquer de façon beaucoup plus simple l'effet magnétocalorique. Je pars de 1, et donc dans un système... Oui, alors ce qu'il faut aussi que je rajoute, c'est que dans un système qui est isolé thermiquement, vous avez vu que Q1 sur T1 était égal à delta S, donc dans un système qui est isolé thermiquement, l'entropie est une constante. S'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, l'entropie est une constante. Donc, regardez ici... La figure numéro 1, la situation numéro 1, on part d'un état magnétique et on applique un champ. Quand on va appliquer un champ magnétique, les moments vont s'orienter encore plus fortement selon le champ. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va augmenter l'ordre magnétique. Donc, on va décroître l'entropie magnétique. Et puisque l'entropie du système est une constante, puisque là, je suis dans la partie où il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, eh bien, pour compenser la baisse d'entropie due à l'augmentation d'ordre magnétique, le réseau va chauffer. Donc, quand j'applique un champ magnétique sur un matériau, il va se mettre à chauffer. Et puis, bien sûr, en deux, on continuera, ça sera le même principe, on va continuer à augmenter le champ magnétique, mais donc, à ce moment-là, on échangera avec la source chaude, donc la température restera constante, mais le principe est exactement le même. Et puis, après, en trois, on va retirer le champ magnétique. Et quand on va retirer le champ magnétique, le système va se désaimanter, donc on va créer du désordre magnétique, Si on crée du désordre magnétique, on crée de l'entropie. Et puisque le système était isolé, eh bien pour compenser ça, il va se refroidir. OK ? Donc ça, c'est le principe de l'effet magnétocalorique. Alors j'ai une petite expérience où je vais essayer de vous démontrer l'effet magnétocalorique. Ce que je vais faire, c'est qu'ici... Donc ici, j'ai deux aimants. Alors, oui, il ne faut pas que je me casse la figure, c'est tout. Donc ici, j'ai deux aimants. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais prévu d'en avoir quatre. Et ce sont des aimants néodyme fer-bore. Et donc, j'étais avec un collègue, je vous préparais l'expérience. Et puis, quand j'ai commencé à les rapprocher, j'ai senti que je n'étais pas assez fort. Il m'a dit, oh ouais, toi, t'es un vieux, on va aller chercher le collègue qui est un vrai athlète. Et donc, ils se sont mis à deux, et moi, j'ai essayé de les aider. Ils n'ont jamais réussi, et les aimants, ils se sont cassés, parce qu'ils n'ont pas réussi à les tenir, et clac, ils ont sauté, ils se sont cassés. C'est pour ça qu'il n'y en a que deux. Les efforts, c'est stupéfiant, hein, c'est impossible à arracher. Hein. Donc ici, on a deux aimants néodyme fer-bore. Donc, au milieu de ces deux aimants, je vous le montrerai après parce que je les ai déjà mis, j'ai un morceau de gadolinium. Et donc la température actuelle, vous pouvez la lire. Comment ça se fait ? Donc là, il fait 21,2 degrés. Vous arrivez à le lire ? Voilà. OK ? Donc, quand je vais retirer mon aimant, je vais désaimanter le matériau, donc il va se refroidir. OK ? Donc la température, elle doit baisser. Je prie pour que ça se passe. Hein. Okay. Vous avez vu ? 20,2. Hein. OK ? Alors, bien sûr, maintenant, après, bien, très vite, il va réchauffer parce qu'il est en contact avec l'environnement. Il va reprendre la chaleur de la pièce. Hein. Mais vous avez vu, immédiatement, on a eu une variation de, avec un petit montage comme ça, on a eu une variation de 1 degré. OK ? Donc ça... Ça vous a illustré immédiatement ce phénomène. Alors, là, il y a quelque chose sur lequel j'ai un petit peu glissé. Je vous ai dit, quand j'ai appliqué mon champ magnétique, l'aimantation a augmenté. Ou bien quand j'ai enlevé le champ magnétique, l'aimantation, elle a baissé. Mais cette aimantation, ce n'est pas l'histoire des parois. Hein, parce que les parois, vous vous rappelez, c'était un tout petit morceau de la matière. Il faut que ce soit toute l'aimantation du matériau qui soit sensible au champ magnétique. Et tout à l'heure, je vous ai expliqué, le champ moléculaire, il est bien plus fort que le champ qu'on peut appliquer. Donc, comment est-ce qu'on peut être dans une situation où d'appliquer le champ, ça va jouer sur l'aimantation ? Eh bien, la réponse, c'est qu'il faut se mettre au voisinage de la température de Curie. Parce que quand on est au voisinage, le système est presque désordonné, et même à ce moment-là, quand vous allez mettre un champ magnétique, il y a une sorte d'effet d'amplification, et le système va s'ordonner vachement bien. Et donc, c'est ce que vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous représenter ici. Donc ici, ce que vous avez, c'est la variation de l'aimantation du gadolinium sous différents champs en fonction de la température. Donc vous voyez, quand vous êtes à basse température, quel que soit le champ, l'aimantation est la même. Quand vous êtes à haute température, elle est égale, bon, ici, c'est une valeur relative, elle est égale à 1. Quand vous êtes à haute température, quel que soit le champ, l'aimantation, elle est à peu près 0. Okay ? Mais dans cette zone-là, eh bien, c'est là que vous pouvez agir sur l'aimantation fortement et donc créer de l'effet magnétocalorique. Et pourquoi est-ce que mon expérience, j'ai faite avec du gadolinium ? Parce que la température de Curie du gadolinium, c'est 290 Kelvin. C'est tout près de la température ambiante. C'est pour ça que ça marche. Si j'avais fait la manip ici avec du fer, ça n'aurait jamais marché. Bon, alors, donc, il faut que j'accélère un petit peu. Donc, l'effet magnétocalorique, c'est un effet qui est extrêmement prometteur. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui recherchent des matériaux. Donc bien sûr, pour que ça fonctionne bien, il faut trouver des matériaux, comme vous le savez bien maintenant, qui soient magnétiques au voisinage de la température ambiante. Et en plus, il ne faut pas qu'ils soient trop chers et il ne faut pas qu'ils soient polluants. Okay, hein, donc il y a des tas de contraintes. Regardez, dans les matériaux actuels qui sont très très bons, il y a manganèse, arsenic, ça m'étonnerait qu'ils soient utilisés. Hein. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui travaillent sur ce sujet et qui recherchent de nouveaux matériaux qui pourraient être utilisés dans ces systèmes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans les réfrigérateurs à effet magnétocalorique ? Alors, le premier truc qui est intéressant, c'est leur coefficient de performance. Bon, j'ai expliqué ça, j'ai pas eu le temps d'expliquer ça, mais on définit une machine frigorifique par son coefficient de performance, qui est en gros la quantité de chaleur que vous allez retirer de la source froide par rapport au travail que vous devez fournir pour faire marcher votre système. C'est pas un vrai rendement, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas un vrai rendement. Et donc ce truc-là, ça peut être plus grand que 1. Et dans les machines, dans les frigos classiques, c'est de l'ordre au maximum de 5. Dans les systèmes magnétocaloriques, c'est de l'ordre de 10. Donc on gagne un facteur 2 qui n'est pas du tout négligeable. Donc autrement dit, ça bouffera moins d'énergie. Le deuxième truc intéressant, c'est que ça fait beaucoup moins de bruit. Hein, parce qu'il faut, enfin, c'est quand même pas rien du tout, parce qu'il faut faire, il faut bien sûr faire un échange en permanence de l'aimant permanent entre la source froide et la source froide et la source chaude, mais bon, c'est pas trop bruyant. Et l'autre chose, bien sûr, c'est qu'une fois qu'on a choisi un matériau qui n'est pas polluant, il n'y a pas de rejet polluant comme il y a avec les gaz qui sont utilisés dans les frigos, dans les réfrigérateurs. Bon, là, c'est juste, je vais passer rapidement là-dessus. C'est juste une astuce parce que vous avez vu ici qu'il y avait une variation que de 1 Kelvin. Et donc, il faut avoir des astuces techniques pour arriver à refroidir votre frigidaire. Votre réfrigérateur, il fonctionne vers 5 degrés. Et souvent, la pièce, elle est à 20 degrés. Donc, il faut des différences de température qui soient supérieures à 2 degrés. Et donc, là, il y a des astuces techniques qui permettent de réaliser ça. Alors maintenant, la dernière partie sur laquelle je voudrais parler rapidement, c'est sur la lévitation magnétique. Alors, vous savez bien que si vous prenez deux aimants et que vous les mettez l'un en face de l'autre avec les pôles nord opposés ou les pôles sud opposés, ils vont se repousser. Et sans doute que vous avez tous essayé, hein, quand vous étiez gamin peut-être, même peut-être quand vous étiez déjà adulte, de les faire tenir l'un, hein, de faire tenir un aimant au-dessus d'un autre aimant qui le repousse. Et je parie que vous n'êtes jamais arrivé. Hein ? Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas arrivé ? Parce qu'on peut démontrer que c'est impossible. Hein ? Alors ça, je vais y revenir dans une seconde. Mais d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est que cette force de répulsion, elle est très forte. Enfin, disons, elle est très significative. Elle est facilement supérieure au poids. Avec des aimants permanents modernes, la force de lévitation, la force de répulsion entre deux aimants est supérieure au poids. Donc, le concept de lévitation, il n'est pas stupide. Hein ? On pourrait espérer. Mais le problème... C'est que donc j'essaie de l'expliquer sur cette figure. Ça s'appelle le théorème de Earnshaw. On peut démontrer qu'il est impossible que en réalité ce qui se passe, c'est qu'il peut pas y avoir de maximum de champ magnétique dans l'espace. Donc si l'énergie de vos systèmes elle est maximum pour un déplacement dans deux directions, hein, vous avez dans l'espace vous avez trois directions possibles x, y et z. Et ben si l'énergie est minimale pour X et pour Y, ça sera un maximum pour Z. Et à partir du moment où vous êtes sur un maximum d'énergie, dès qu'il y a un tout petit déplacement, le déplacement va s'amplifier. Hein. Vous savez bien que si vous mettez une bille au sommet d'une colline, vous savez très bien que dès que vous poussez un peu la bille, elle va tomber, elle ne va jamais revenir. Le système, il est instable. La conclusion, c'est que si vous faites un système en lévitation avec des aimants permanents, il faut rajouter un système stabilisateur. Alors, c'est quand même vachement astucieux, hein, parce que c'est pas trop compliqué de faire un système stabilisateur. Et donc, il y a de nos jours des systèmes électroniques qui en gros, qu'est-ce qu'ils font, ces systèmes électroniques ? Eh bien, ils vont alimenter une petite bobine, et dès que le système quitte son maximum, tac, ils vont ramener, et ils vont garantir le fonctionnement, dans des bonnes conditions. Donc, il y a des paliers magnétiques qui fonctionnent comme ça, qui sont utilisés, ce sont les applications principales, qui sont utilisées dans des pompes turbomoléculaires, donc ça c'est plutôt pour la recherche, disons, et puis aussi qui sont envisagés pour des systèmes de stockage d'énergie, dans des volants d'inertie. On peut stocker de l'énergie, on peut créer des batteries en quelque sorte, qui sont obtenues en faisant tourner des volants très rapidement, et ça stocke de l'énergie, et ces systèmes-là, ils ont des rendements qui sont en fait 4 ou 5 fois supérieurs à ceux des batteries. Il y a une autre application dont j'ai oublié de vous en parler, j'ai réalisé ça avant la conférence tout à l'heure. Il y a une autre application qui sont pour des trains. Il y a eu des expériences, il y a eu des lignes de trains qui ont existé comme ça. Il y en a une qui était connue, qui était à Berlin, et qui était le long de. C'était du temps du mur de Berlin. Elle était à Berlin-Ouest. Elle suivait, elle suivait le mur, et elle apparaît, si certains d'entre vous l'ont vu, elle apparaît dans le film Les ailes du désir. Donc. Et pour des raisons que je ne me rappelle pas, les écologistes étaient contre ce train. Je ne sais plus pourquoi. Ils ont même fait des attentats. Mais je ne sais plus la raison. Et ça, je ne sais plus la raison pour laquelle ils étaient opposés. Alors, donc là, ce sont des exemples de paliers magnétiques, donc aimants permanents. Et maintenant, je vais arriver à quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est le diamagnétisme. Donc, je vous ai parlé des moments permanents, etc. Mais il y a une autre propriété de la matière qui est beaucoup plus faible que le ferromagnétisme. Et c'est le fait que si vous appliquez un champ magnétique sur la matière, eh bien, elle va réagir, elle va s'opposer. C'est un peu l'équivalent de l'inertie en mécanique. C'est même tout à fait l'équivalent d'inertie. Elle va s'opposer à ce phénomène. Et ça s'appelle le diamagnétisme. Alors, comme c'est un phénomène très faible, on peut montrer... Là, excusez-moi, parce que j'aurais dû écrire B à la place de H. Mais on peut montrer donc que le moment diamagnétique, on l'écrime sous la forme moins qui H, c'est-à-dire qu'il est proportionnel au champ qu'on a appliqué. Alors, dans ce cas-là, on peut démontrer, au contraire, que la lévitation peut être stable. Donc, alors, ce qui est très amusant, c'est que, comme toujours, on dit, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas suffisamment réfléchi à ça. On disait toujours, la lévitation, c'est impossible en magnétisme. Et on ne réfléchissait pas, c'est impossible en magnétisme, dans le cas des aimants permanents. Mais ce n'est pas quelque chose qui est général. Et dans le cas diamagnétique, eh bien, ce n'est pas le cas. Et en réalité, donc, ça a été découvert, disons, enfin, les gens qui l'ont fait dans les années 90, qui ont découvert la lévitation diamagnétique, ils ont cru faire une découverte jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'en 1936, ça avait déjà été réalisé, mais que cette connaissance avait été perdue en quelque sorte. Alors, le problème de la lévitation diamagnétique, bien sûr, c'est que le moment diamagnétique, il est tout petit. Et donc, c'est pas facile. Et si vous faites un calcul de force, eh bien, vous vous apercevez que de faire la lévitation diamagnétique, vous n'avez pas beaucoup de chances que ça marche. Alors, comment le réaliser? Il faut créer des systèmes spéciaux avec des très grands champs magnétiques et des très grands gradients de champs magnétiques. Alors là, il y a une expérience magnifique qui a été faite à Nîmes, où dans une bobine, c'est des bobines de champs intenses qui créent des champs d'environ 40 tesla, enfin pour les gens qui ont, non, plutôt de 30 tesla, pour les gens qui connaissent ça, ce sont des champs très intenses. Et voyez ici, ce qu'ils ont réalisé, eh bien, c'est la lévitation d'une grenouille. Voilà, donc ça vous montre qu'on peut léviter des petits objets, mais bon, là, c'est vraiment ce qu'on appelle prendre un marteau pour écraser une mouche, hein, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire ça. Donc, à ce stade-là, ce n'est que de la curiosité. Alors, il y a quand même un cas que je voudrais vous montrer ici, où on peut réaliser de la lévitation diamagnétique à température ambiante avec des aimants permanents. Et c'est ce qui est présenté sur cette figure. Donc, c'est déjà là. Donc, regardez ici. J'ai quatre aimants permanents. Et si vous voyez bien, je crois que ça se voit assez bien. Même, est-ce que je vous gêne là? Non, je ne me gêne pas. Ici, est-ce que vous voyez que la plaque, elle est lévitée? Voilà. C'est une plaque de graphite. Et elle est lévitée au-dessus des aimants permanents. Alors, ce n'est pas par hasard qu'on a choisi le graphite. Hein. C'est tout simplement parce que c'est le meilleur matériau. Donc, il se trouve que le graphite, il a une susceptibilité diamagnétique très importante. Donc, jusque-là, c'est très joli, mais ce n'est encore qu'une curiosité. Mais ce qui se passe, c'est que si vous faites... Alors, bon, ici, j'ai fait un petit calcul pour vous montrer les forces de lévitation diamagnétique, et vous voyez qu'avec l'eau, c'est environ 50 fois plus faible qu'avec le graphite. Donc, vous n'allez pas réussir à léviter une goutte d'eau. Je reviendrai sur ça après. Quand vous diminuez la taille des objets, la force de lévitation augmente. Alors, la force de lévitation, elle n'augmente pas directement, mais c'est quand vous la comparez au poids. Quand vous voulez léviter quelque chose, ce qui compte, c'est la force de répulsion comparé, normalisé au poids de cet objet. Et bien, quand vous faites ça, ça varie directement comme le coefficient de proportionnalité. Et donc la conclusion, c'est que la lévitation dans les très petits objets, ça devient quelque chose de très intéressant. Alors, depuis que cette chose-là a été réalisée, donc il y a des projets qui existent de fabriquer des systèmes, par exemple pour l'enregistrement magnétique, des systèmes embarqués, où il y a toute l'électronique embarquée, et qui se déplace sans aucun frottement à la surface du disque dur. Vous savez que le problème de la lecture de l'information sur le disque dur, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, parce que la tête de lecture, si elle se pose sur le disque, elle est soudée pour toujours. C'est d'une propreté absolue, il y a une liaison atomique qui se fait, et vous ne pouvez pas poser comme ça une tête de lecture sur un disque dur. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une zone d'atterrissage. La tête de lecture, elle vient toujours se poser à un endroit particulier qui a une structure telle qu'elle pourra se décoller. Donc, bien sûr, pour des applications comme ça, le fait de la lévitation, ça résout ce problème-là. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la microfluidique. De plus en plus, on a besoin de systèmes de plus en plus petits. En biologie, on a besoin énormément de manipuler des liquides en très petites dimensions. Et donc, il y a toute une science qui se développe qui s'appelle la microfluidique. Et bien ici, ce que je vais vous montrer ici, c'est que des gouttes d'eau, elles peuvent être lévitées sur des aimants permanents. Et là encore, ce n'est pas encore à l'échelle micronique. C'est un exemple, là, c'est un exemple qu'on a obtenu avec des petits aimants permanents. Alors, c'est pas très spectaculaire. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris quatre aimants permanents. C'est un aimant permanent, puis on a fait deux tris ici. Et on envoie un jet d'eau sur le système. Et ce qu'il faut savoir, j'ai un peu glissé là-dessus, c'est que la force de répulsion, elle est liée au gradient de champ magnétique. Donc, le gradient, c'est les zones où varie le champ magnétique. Donc, ça va être maximum dans les fentes. Donc, ce que vous remarquerez, c'est que, quand je vais mettre le film en route, vous remarquerez que c'est quand les gouttes viennent dans la fente, vous verrez que les gouttes, à ce moment-là, elles suivent la fente. Et en plus, comme l'aimant, il se trouve, il est un petit peu penché, et bien vous remarquez que ce qui vient d'en haut va tourner sur la gauche. Donc, les gouttelettes, elles vont faire comme ça sur l'image. Vous verrez, ça fait comme ça. Et puis, celles qui viennent de la droite, elles tourneront comme ça. Donc là, voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez, là on envoie, vous les voyez les gouttelettes là, qui avancent et puis elles tournent à gauche. Vous les voyez bien là ? Voilà. Voilà, donc c'est pour vous montrer. Ah oui, j'aurais pu faire, excusez-moi, je devrais faire plein écran. Voilà. Donc on voit la lévitation des gouttelettes due à ce mécanisme-là. Voilà, et bien donc, je m'en arrête là. J'espère que j'ai réussi à vous intéresser, à vous convaincre de la beauté des applications possibles du magnétisme, et je vous remercie pour votre attention.
Eh bien, merci Dominique Givor, et nous ouvrons les questions. Alors, on en a une ici, il y en a une en haut aussi. Alors, commençons par en haut, puis ensuite on descendra.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à propos des développements possibles et futurs de la supraconductivité à haute température ?
Ok, alors, premièrement, ce n'est pas ma compétence. Donc, la supraconductivité à haute température critique, c'est une propriété qui a été découverte en 1986. Et donc, jusqu'alors, on croyait que la supraconductivité était limitée à environ 30 Kelvin. Et là, on a obtenu des matériaux qui sont supraconducteurs jusqu'à 120 Kelvin. Dans des conditions très particulières, on peut même aller à des températures supérieures à 150 Kelvin. Mais à pression ambiante, c'est environ 120 Kelvin. Alors 120 Kelvin, c'est une frontière très importante parce que l'azote liquide, autrement dit l'air liquide, c'est 77 Kelvin. Donc le matériau, à la température de l'azote liquide, il est supraconducteur. Alors, effectivement, donc, ces matériaux, pour l'instant, la grosse difficulté de ces matériaux, c'est que ce sont des céramiques. Donc, faire des fils, c'est très difficile. Et du coup, il y a beaucoup de développement technologique pour essayer de fabriquer des matériaux souples qui gardent la supraconductivité. Il y a un certain nombre d'applications qui existent déjà, qui sont en particulier, donc, un supraconducteur, il peut piéger un champ magnétique, donc ils peuvent servir, en gros, ils peuvent servir d'aimant. C'est peut-être à ça que vous pensiez dans votre question. Effectivement, ils peuvent servir d'aimant permanent, en quelque sorte. On rentre dedans un courant électrique qui est ensuite à tourner en permanence, et à condition de jamais les réchauffer, eh bien, ils vont jouer un rôle d'aimant permanent qui peut générer plusieurs Tesla. Donc, ils sont des aimants permanents extraordinaires. Et puis, bien sûr, aussi, ils ont le mécanisme de lévitation, dont j'en profite de répondre parce que c'est très intéressant, parce que la lévitation dans un supraconducteur, elle est à la lévitation diamagnétique ce que le moment magnétique d'une spire est au moment magnétique atomique. Les courants supraconducteurs qui font la lévitation, ce sont des courants macroscopiques qui vont se développer dans tout le matériau. Mais donc, c'est, de ce point de vue-là, ça ressemble à la spire. Mais vous avez tout à fait raison. Il y a des courants qui se développent, qui s'opposent au champ magnétique qu'on a essayé de créer et qui créent la lévitation.
Monsieur, ici.
Quelle est la part du spin et du mouvement des électrons dans le magnétisme ? Et le noyau a-t-il aussi des propriétés magnétiques ?
Alors, sur la première partie de la question, donc... L'ordre magnétique, il est dû au spin. L'ordre magnétique, parce que c'est un truc fondamental, c'est ce que j'ai expliqué, c'est lié à l'histoire du principe de Pauli. Donc, on peut dire que l'élément le plus important du magnétisme, c'est le spin. Maintenant, la partie orbitale, premièrement, elle donne l'anisotropie magnétique, le fait que les moments magnétiques, ils ont une direction privilégiée. Et puis aussi, le moment orbital, il peut avoir une grande valeur. Elle peut donner une grande aimantation. Donc il y a des systèmes où ça c'est intéressant. En particulier dans les métaux de terre rare, on peut avoir une plus grande aimantation. Maintenant, la deuxième partie de vos questions, oui, le noyau peut avoir un moment magnétique, ça s'appelle le moment magnétique nucléaire. Il est d'origine tout à fait différente, mais il est utilisé dans les expériences de résonance. Et c'est quelque chose de très important. Il est utilisé dans la résonance magnétique nucléaire, et donc et en particulier dans l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, qui est donc une application fondamentale. Et il y aura donc une conférence sur ce sujet. Je ne sais plus laquelle c'est, mais l'une de ces conférences. Hein.
En haut, maintenant.
Oui, Monsieur Michaud a évoqué vos travaux sur les champs magnétiques pulsés. Est-ce que vous pourriez parler dans les applications... Est-ce que vous pourriez parler en appliquant en thérapie?
Oh. Alors, non, je ne suis pas compétent. Donc, l'effet d'un champ magnétique, disons, ma compréhension que j'ai, parce que bien sûr, je me suis posé deux, trois fois la question sur ma compréhension de l'effet d'un champ magnétique pulsé sur le corps humain, ben, c'est probablement que, comme c'est un champ magnétique variable, il va être source, le corps humain va réagir en créant des courants électriques qui vont s'opposer au champ magnétique. Donc, il va y avoir une réaction du corps humain à un champ magnétique variable. Donc ça, c'est ça que je peux vous dire. Mais maintenant, en thérapie, quel est le véritable impact thérapeutique des champs magnétiques pulsés, je ne connais pas.
En haut, maintenant.
Merci. Est-ce que, par exemple, dans le domaine automobile, on pourrait imaginer d'utiliser les forces de répulsion pour s'opposer à des collisions ou pour créer des limitations de vitesse ou des choses comme ça ?
À mon avis, les masses en jeu seraient telles que c'est irréaliste. Hein. Dans le principe, oui, on pourrait. Dans le principe, oui, on pourrait. Hein. Mais à mon avis, et puis alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous réalisez, mais l'automobile en question, elle attirerait, avant de repousser, elle attirerait des tas d'autres choses avant. Hein. Donc.
Monsieur.
Oui. Il me semble que vous avez évoqué le potentiel de la lévitation magnétique pour stocker l'énergie. Oui. Est-ce que c'est purement théorique ou ça peut avoir des applications à échéance?
Non, ça peut avoir une application. Non, mais c'est le potentiel de la lévitation magnétique. C'est la lévitation magnétique qui permet de faire des systèmes tournants sans frottement. Donc après, le système qui va stocker l'énergie, c'est le volant d'inertie. Hein, donc la lévitation là-dedans, elle a en quelque sorte un rôle secondaire, mais c'est un rôle très important parce qu'un volant d'inertie, il faut qu'il y ait très peu de frottement pour qu'il arrive à stocker de l'énergie. Donc, la lévitation magnétique avec un système stabilisant, ils sont utilisés donc dans des systèmes qui tournent à très grande vitesse et de ce genre-là.
En haut, là, à gauche.
Bonsoir. Le spin des différentes particules étant un multiple de plus ou moins 1,5, y a-t-il certaines valeurs de spin qui favorisent des applications pratiques ? Et pourquoi ?
Pour nous, on travaille avec le spin des électrons. Hein. Là, donc c'est toujours la même matière, la même particule qui nous concerne, c'est le spin des électrons qui a un spin 1,5. Alors après, bien sûr, dans les atomes, les électrons se combinent pour donner un moment magnétique de spin global, un moment magnétique atomique qui peut avoir une valeur autre que 1,5. Alors, à ce moment-là, si votre question est reliée à ça, une fois de plus, bien sûr, ce qu'on a toujours envie, c'est d'obtenir un matériau qui ait le plus grand moment magnétique de spin possible, parce qu'une fois de plus, l'aimantation la plus grande possible, c'est meilleur pour les applications, parce que ça va créer un plus grand champ magnétique dans l'environnement. Malheureusement, à ce jour, on n'a encore pas réussi à fabriquer un matériau qui, à température ambiante, ait une aimantation supérieure à celle du fer. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Régulièrement, on croit avoir fait une découverte qui amène ça. Donc, le fer, il a une aimantation, on la mesure, ce n'est pas tout à fait correct, mais on peut la mesurer en tesla. Et donc, on dit que le fer a une aimantation de 2,2 tesla. Les aimants néodyme fer-bore dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont une aimantation de 1,6. Hein, donc, ils ne sont pas mauvais, mais ils sont en-dessous. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des mélanges, comme j'ai raconté, de faire des mélanges entre fer et néodyme fer-bore.
Au milieu. Oui, allez-y.
Vous avez parlé d'un produit, le gadolinium, qui est utilisé en médecine pour réaliser des IRM.
Oui.
Pouvez-vous nous donner quelques notions sur la nature de ce produit et la façon dont il agit pour réaliser tel cliché?
Alors, le gadolinium, c'est un élément ferromagnétique. Donc là, je l'ai montré parce qu'il a sa température de Curie au voisinage de la température ambiante. En IRM, il est utilisé, je crois que c'est parce que ce sont des particules et que c'est une source de gradient de champ magnétique. Donc il va modifier, quand on fait de l'IRM, on regarde en gros le proton, hein, on fait la résonance magnétique du proton, et ce qu'on regarde, c'est les temps de relaxation. Et donc au voisinage, quand on met des particules magnétiques dans le corps humain, on change le temps de relaxation du proton. On change le temps de relaxation de proton, et ça, c'est une façon, dans les observations d'IRM, c'est une façon de localiser le signal, le proton qui répond. Donc ça sert à ça.
Oui, bonsoir. Par rapport à tout ce que vous nous avez dit, puis à ce qu'on a entendu plus d'une fois sur le fait qu'on peut démagnétiser en chauffant...
Désaimanté,
en chauffant. Moi, j'aurais une même question par rapport au froid, puisque avec les températures qu'on a aujourd'hui, les courants d'avoir des cartes à puces, des cartes magnétiques qui se démagnétisent, et savoir comment est-ce que ça peut agir, en fait.
Votre question, c'est quand les cartes à puces se désaimantent, est-ce que c'est dû à un phénomène thermique?
Avec des températures très froides, on a l'impression que la magnétisation se perd.
Non, mais ça... Non, ça, c'est inexact. D'abord, la carte à puce, elle n'est pas magnétique. Hein. Ce qui est magnétique, c'est la bande magnétique qui est derrière votre carte à puce. Mais la carte à puce, elle n'a rien de magnétique. Et il peut y avoir des exceptions très rares de matériaux qui sont magnétiques à température ambiante, par exemple, et qui perdent leur magnétisme à basse température. Mais c'est une propriété rarissime. Et normalement, et en tout cas un matériau ferromagnétique classique, quand vous allez refroidir, il va être de plus en plus magnétique systématiquement.
Bien, ben, nous allons en rester là. Je crois que c'est la dernière question. Et remercier Dominique Givor. Merci beaucoup.